en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Nous allons ensemble nous porter en imagination sous la coupole de l'Institut de France où siègent les académiciens. À l'Académie française, chaque nouvel académicien se voit attribuer un fauteuil numéroté, dont les prédécesseurs font généralement partie des grands noms de la culture française. Et c'est chaque fois l'occasion pour Mireille Pastoureau, conservateur et directeur de la bibliothèque de l'Institut, de préparer une histoire du fauteuil sur lequel il va désormais s'installer. Mireille Pastoureau prépare ainsi une surprise, un cadeau de bienvenue pour le nouvel académicien. Et c'est ainsi que pour la réception de Monsieur Philippe Beaussan, reçu sous la coupole le 23 octobre 2008, Mireille Pastoureau a sorti du fond de sa riche bibliothèque tout un ensemble de documents relatifs aux académiciens qui, au long de l'histoire, ont siégé sur ce 36e fauteuil. Mireille Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour nous raconter une histoire de fauteuil, puisque nous avons déjà traité, souvenez-vous, le 37e fauteuil, celui où siège René Girard, le 24e, celui actuellement occupé par Max Gallo, et le 25e, celui de Dominique Fernandez. Nous allons maintenant donc étudier le 36e avec vous, qui est celui sur lequel vient de s'installer Philippe Beaussan. Alors, quel fut le tout premier occupant de ce fauteuil 36? On devrait le connaître un peu mieux.
Oui, c'est un personnage intéressant qui appartenait également à l'Académie des sciences. Il a d'abord été admis à l'Académie française lors de la fondation de celle-ci en 1635 et un peu plus tard à l'Académie des sciences en 1666, car il était médecin, c'est Marin Curo de la Chambre. Il était médecin et philosophe. Il avait passé son doctorat de médecine à Montpellier et exercé la médecine au Mans. Et en 1634, il était venu à Paris pour devenir le médecin de Pierre Séguier, le chancelier, qui avait également une très riche bibliothèque. Et Marin Curo de la Chambre a profité largement de cette riche bibliothèque pour ses travaux.
Et c'est lui qui fit l'éloge du cardinal de Richelieu. Tout de même, c'était un honneur, je suppose.
Voilà, c'est un honneur. On lui a demandé de prononcer l'éloge funèbre de Richelieu, car il avait été son protégé. Donc en 1641, c'est lui qui a prononcé l'éloge funèbre. Et la pureté de sa langue et l'élégance de son style étaient admirées.
Alors, ce Curo qui s'appelait Marin, Curo de la Chambre, il a eu un successeur qui portait le même nom, mais qui n'avait pas le même prénom.
Exactement. C'est son fils Pierre, qui a été élu à sa suite à l'Académie, et qui était homme d'église et qui n'était pas le grand savant qu'avait été son père, car Marin Curo de la Chambre avait fait des études sur la lumière, sur l'anatomie, sur la chirurgie. Il avait enseigné au Jardin Royal, qui était le nom du jardin des plantes. Son fils, lui, était un homme d'église. C'était aussi un protégé du chancelier Séguier, un protégé du premier ministre Colbert. Et à la suite de son père, il a été élu à l'Académie. Alors, à la bibliothèque, nous avons beaucoup moins d'œuvres de Pierre que de Marin. Nous avons surtout des oraisons funèbres, des sermons, des panégyriques. Mais nous avons tout de même quelques publications qui gardent sa mémoire.
Mais cet abbé de la Chambre, il faut tout de même s'appeler comme ça, l'abbé de la Chambre, est mort victime du dévouement à ses paroissiens pendant une famine, ce qui est tout de même à sa gloire.
Exactement.
Le troisième successeur de ce Pierre Curo de la Chambre, le troisième occupant de ce fauteuil 36, il est très célèbre.
Il est très célèbre car c'est Jean de la Bruyère. Et ce qui est très amusant, c'est que en réalité, Jean de la Bruyère n'a pas écrit un grand nombre d'ouvrages. Il est devenu célèbre, comme chacun sait, par les caractères. Et il a écrit très peu d'autres choses par ailleurs. Donc, il avait eu d'abord une formation de juriste à Orléans et avait commencé à exercer la carrière d'avocat, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Et ensuite, il était devenu parisien et précepteur du fils du grand Condé. grâce à la recommandation de Bossuet. Et toute sa vie, il est resté attaché à la maison des Condé en tant qu'homme de lettres, jusqu'à la fin de ses jours. Et pendant les années où il était précepteur, il notait des réflexions sur ses contemporains et il a eu l'idée de les publier à la suite d'une traduction des caractères du philosophe grec Théophraste. Il les a publiés anonymement et ce fut un grand succès, car ce côté satirique a amusé la société parisienne, a soulevé beaucoup de curiosité, et on peut dire que toute la réputation de La Bruyère est fondée sur ce seul ouvrage.
Et la première édition des caractères, ça c'est le côté savant de Mireille Pastoureau, 420 portraits, si on peut dire, ou réflexions. La cinquième édition, 923, et la huitième édition, 1120. C'est pour dire qu'il est
absolument
au fait. Il est
au fait. Voilà, absolument. On ne caractère. L'arrêtait plus, si je puis dire, au point que même dans son discours de réception à l'Académie, il n'a pas pu s'empêcher de faire des portraits. Et ça lui a joué un mauvais tour, car habituellement, ce discours de réception devait se composer du traditionnel éloge du cardinal de Richelieu, ce qu'il a fait. Mais il a ajouté, sous forme de portrait, des éloges des membres qu'il avait soutenus. Ainsi, La Fontaine, Boileau, Racine, ses amis, Bossuet, Fénelon, le secrétaire perpétuel Régnier des Marais, et les académiciens qui n'avaient pas été cités dans le panégyrique ont pris ombrage de ce traitement inégalitaire. Et de plus, sa maladresse fut aggravée car il a tenu à publier son discours précédé d'une longue préface dans laquelle il entretenait la polémique. Et c'est à la suite de cela que l'Académie a ajouté un nouvel article à ses statuts et a décidé que le récipiendaire désormais devrait soumettre son discours à une commission d'académiciens avant de le prononcer.
Et ça se fait toujours.
Ça
c'est
se fait toujours.
Qui c'est s'est
exactement.
Conservée.
Voilà, un petit groupe d'académiciens écoute le discours une semaine avant ou deux semaines avant.
Pour être sûr que tout va bien se passer.
Exactement.
Il faut dire que La Bruyère. Là, on est à la fin du XVIIe siècle. Il était évidemment pris dans la querelle des fameux modernes et des anciens, qu'il avait choisi un camp contre l'autre. Évidemment, ça lui a posé des problèmes. Après La Bruyère, donc, le quatrième titulaire, c'est un abbé. Alors, Claude Fleury, et cet abbé, il ne faut pas le confondre, je crois, avec un autre Fleury.
Voilà, avec le grand cardinal Fleury, voilà, qui était un homme politique. L'abbé Fleury était davantage un historien de l'Église. Il a composé une histoire ecclésiastique en 20 volumes, qui a eu beaucoup d'éditions, de rééditions, également un catéchisme historique. Et il était aussi confesseur du roi Louis XV. Et on l'avait surnommé le judicieux Fleury. C'était un grand érudit.
Devait avoir fort à faire peut-être avec Louis XV.
Ce qui confessait ses péchés. Louis XV disait tout.
On va passer quelques titulaires, Mireille Pastoureau, pour arriver maintenant au septième titulaire. Alors là, on est vraiment fin du XVIIIe siècle, enfin milieu du XVIIIe siècle. Un autre homme d'église, mais était-il vraiment d'église, sait-on jamais? Cardinal Prince Louis de Rohan-Guéméné.
Voilà, c'est le grand cardinal de Rohan qui appartenait à l'illustre famille des Rohan, famille très influente, où on l'avait destiné dès sa naissance à l'église. Et ce petit prince de Rohan fut nommé chanoine à l'âge de 9 ans, évêque à 25 et membre de l'Académie française à 27 ans. Mais il a quand même profité de la vie agréablement pendant un certain nombre d'années. Donc il avait une fortune tout à fait considérable. On l'a nommé ambassadeur à Vienne où il a mené 6 grands trains que l'impératrice Marie-Thérèse était scandalisée.
C'est dire.
Et a dit beaucoup de mal de lui à sa fille Marie-Antoinette. De sorte que quand il est revenu en France, à la cour, il n'était pas en cour précisément. Il était assez mal vu. Et ce malheureux cardinal de Rohan s'est empêtré dans l'affaire du collier de la reine parce que, en espérant rentrer en cour auprès de Marie-Antoinette, il s'est laissé abuser par une dame d'honneur de celle-ci, Madame de la Motte, qui l'a persuadé de financer un collier que, soi-disant, la reine Marie-Antoinette ne pouvait pas acheter ouvertement. Et on avait persuadé le cardinal d'acheter le collier en lui disant que la reine le rembourserait ultérieurement. En réalité, la reine n'était au courant de rien. Madame de la Motte est partie en Angleterre avec le collier, les pierres desserties, et le cardinal de Rohan a été l'objet d'un grand scandale. Il a été emprisonné à la Bastille pendant un an. Il a dû rembourser le collier. Sa vie durant, et même ses héritiers ont dû finir de payer le collier. Il a été exilé ensuite 3 ans. Et cette malheureuse affaire du collier de la reine a gâché sa vie.
Et a-t-elle porté ombrage à l'Académie française ?
À la reine, certainement, à la monarchie, certainement, ça a fait du tort. Et je crois qu'on a très discrètement éludé le fait que le cardinal appartenait à l'Académie française. Je dois dire qu'avant de préparer cette exposition, j'ignorais que le cardinal de Rohan était membre de l'Académie française.
C'est donc une découverte, grâce à vous, Mireille Pastoureau. Après, je vous propose de passer au 9e titulaire. Alors lui, parce qu'il sent le libertinage, alors on ne va pas s'en passer tout de même, voire même un peu le blasphème. C'est un poète qui, paraît-il, était très connu à l'époque, Parny.
Et effectivement, c'est un fauteuil qui réunit à la fois des hommes d'église et des personnalités subversives. Et Parny s'est fait connaître par des œuvres libertines et impies. Et de l'aveu même de Chateaubriand, le génie du christianisme de Chateaubriand est une réponse au blasphème de Parny. Et Parny avait de grandes facilités. Il avait commencé par être militaire. Sa famille est originaire du Berry, mais installée à La Réunion. Et après quelques années dans l'armée, il a décidé de se consacrer à la poésie, car il était doué de grandes facilités pour cela. Et il a renouvelé le genre poétique du XVIIIe siècle, qui était assez fade, assez conventionnel, de sorte qu'il a été extrêmement lu au début du XIXe siècle. Et les romantiques, tous les grands poètes romantiques l'ont lu, mais ensuite l'ont fait oublier, car ils l'ont surpassé, ils l'ont remplacé. Et nous avons trouvé un document à la bibliothèque qui est très curieux. C'est un recueil de poésie de Parny recopié par Alexandre Dumas père et calligraphié. C'est très joli, c'est un manuscrit autographe, ce qui montre l'intérêt qu'Alexandre Dumas père portait à ses poésies.
Et alors, il avait même écrit des chansons madécasses. Je me suis évidemment informée de ce que c'était. Vous allez nous raconter cela.
Eh bien, ce sont des traductions de chansons de Madagascar. Comme il était originaire de La Réunion, c'est très proche, naturellement. Et on considère que cette traduction est le premier essai de poèmes en prose en langue française. Et ces chansons ont ensuite été mises en musique par Maurice Ravel.
On ne pouvait pas manquer cette notation relative au chevalier Évariste de Parny. Mireille Pastoureau, je vous propose de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Retour dans notre studio avec Mireille Pastoureau, conservateur-directeur de la bibliothèque de l'Institut. Et nous évoquons avec elle les titulaires du 36e fauteuil de l'Académie française. Passons sur quelques titulaires pour arriver à toute une série d'hommes d'église. Alors là et maintenant, il y en a 4 qui se succèdent les uns après les autres. On est en 1882 pour le premier. Je vous laisse nous le présenter.
Alors le premier est le cardinal Adolphe Perrault, qui appartenait à la célèbre promotion de 1848 de l'école normale supérieure, souvent appelée la grande promotion, où il eut comme condisciples Hippolyte Taine et Edmond Abou, et qu'il retrouva ensuite à l'Académie. Donc Adolphe Perrault commença par passer l'agrégation d'histoire et ensuite il entra dans la congrégation de l'oratoire. Il devint docteur en théologie, professeur d'histoire ecclésiastique à la Sorbonne et il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages religieux mais aussi de nombreuses allocutions, discours, lettres pastorales, oraisons. Et nous avons un portrait photographique du cardinal Perrault et qui fait partie d'une série très intéressante car elle a été commandée par le duc d'Aumale. Le duc d'Aumale, à cette époque, appartenait à 3 académies de l'Institut sur 5 et il a commandé à un grand photographe qui était Eugène Pirou. Il a commandé les portraits photographiques de tous ces académiciens contemporains.
Il a bien fait, voilà. Comme ça maintenant on voit leur visage. Voilà. Alors ce cardinal Adolphe Perrot, lui succède un autre cardinal, François-Désiré Mathieu.
Voilà, ce cardinal Mathieu qui a davantage un profil d'historien, qui a aussi une formation universitaire, il était professeur d'histoire, il était lorrain. Et c'est pas indifférent parce qu'on retrouvera plus tard un autre Lorrain dans ce fauteuil avec Pierre Gaxotte. Donc le cardinal Mathieu a soutenu sa thèse en 1878 sur l'ancien régime dans la province de Lorraine et de Barrois et il a consacré plusieurs ouvrages à la Lorraine et à l'histoire religieuse. Donc il était évêque d'Angers en 1893, puis archevêque de Toulouse et pour finir en 1899 cardinal de Curie.
Il est suivi aussi par un autre qui n'est pas cardinal mais qui est évêque, Louis Duchesne.
Ah voilà, alors c'est Monseigneur Duchesne qui est une personnalité très intéressante, élu à l'Académie en 1910 mais qui auparavant était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1888 car il était passionné d'archéologie, c'est un grand érudit. Donc pour revenir aux origines, il était issu d'une famille de marins bretons, il avait été orphelin très tôt, ordonné prêtre en 1867, puis professeur à Saint-Brieuc, ensuite il est venu à Paris, il a suivi des cours à l'école des hautes études, il a été élève de l'école française de Rome en 1873 et 1876. Il a découvert là sa passion pour l'archéologie. Il a effectué plusieurs missions au Mont Athos, en Syrie, en Asie mineure. Il a passé sa thèse de doctorat et il a enseigné dans l'enseignement privé, notamment la première chaire d'histoire ecclésiastique de l'Institut catholique en 1877. Mais le contenu très critique de son enseignement a suscité des oppositions qui le contraignirent à quitter la faculté de théologie en 1883, donc première rupture. Et il a ensuite enseigné à l'école des hautes études et il a été nommé directeur de l'école française de Rome en 1895, où il a laissé une marque importante. Et donc il a produit une œuvre abondante sur l'histoire de l'Église, qui lui valut beaucoup de récompenses, mais qui aussi suscita une inquiétude de la hiérarchie romaine. Et on a jugé que son histoire ancienne de l'Église était trop moderne. Et le livre fut mis à l'index.
Voilà, ce pauvre Louis Duchesne à l'index.
Voilà. Cela dit, en 1973, un colloque lui a été consacré au Palais Farnèse à Rome, où se trouve l'école française de Rome, et le pape Paul VI a réhabilité la mémoire de Monseigneur Duchesne.
Très bien, grand, éminent membre donc de l'Académie française, mais aussi de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de très nombreuses académies étrangères aussi. À Louis Duchesne, à Monseigneur Louis Duchesne, succède l'abbé Henri Brémond, encore un homme d'Église sur lequel Canal Académie a déjà fait et proposé plusieurs émissions. Alors, cet Henri Brémond a été élu en 1923.
Exactement. Il était originaire d'Aix-en-Provence. Il était entré dans la Compagnie de Jésus à l'âge de 17 ans. Et il avait fait son noviciat en Angleterre, car les jésuites ayant été expulsés de France, il n'y avait pas d'autre possibilité. Devenu prêtre, il était également enseignant dans des collèges de jésuites. Il a collaboré à la revue Études. Mais son tempérament non conformiste le poussa à quitter l'ordre en 1904. Et il s'est ensuite consacré pleinement à ses travaux de critique et de littérature. Il a collaboré à diverses revues et il s'est imposé rapidement comme l'un des esprits les plus fins et les plus érudits de sa génération. Alors le grand livre que l'on garde de lui, c'est l'histoire littéraire du sentiment religieux en France, naturellement, mais il a écrit beaucoup d'autres ouvrages et ses recherches à partir des années 20 l'ont porté vers l'étude de la poésie contemporaine. Il s'intéressait au romantisme et surtout au symbolisme et il s'est efforcé de démontrer la dimension mystique de la poésie. Et c'est sous la coupole de l'Académie, en 1925, alors qu'il était chargé de la traditionnelle lecture pour la séance publique de rentrée, qu'il s'est interrogé sur la poésie pure et qu'il a avancé sa célèbre thèse, qui a été beaucoup débattue ensuite, dans laquelle il prétendait que la beauté d'un vers pouvait tenir à sa seule musicalité, indépendamment de son sens. Et dans ces débats, il avait reçu le soutien de Paul Valéry.
Passons maintenant, si vous le voulez bien, Mireille Pastoureau, au titulaire 18, le 18e successeur donc de Marin Curot de la Chambre. Il s'appelle René Grousset.
Exactement. Et René Grousset, qui était historien, spécialiste des arts asiatiques, est encore bien lu de nos jours, même dans les jeunes générations. C'était un spécialiste de l'art de l'Asie. Il avait fait des études d'histoire à Montpellier et il s'était ensuite spécialisé dans l'étude des arts asiatiques et avait obtenu un poste à l'École des langues orientales, bien qu'il ne connût aucune langue orientale.
Ce n'est pas un érudit, mais plutôt un merveilleux vulgarisateur des connaissances.
Exactement. Il avait un talent de synthèse extraordinaire et il a également eu une carrière de conservateur de musée, au musée Guimet, au musée Cernucci.
Ce sont deux musées asiatiques de Paris.
Exactement.
Très célèbres.
Exactement. Membre du Conseil des musées nationaux. Et il était très brillant et il a su rendre accessibles les travaux des grands orientalistes qui étaient sans doute trop spécialisés pour le grand public. Donc il a écrit des livres tels que Le réveil de l'Asie, L'art de l'Extrême-Orient, La Chine et son art, De la Chine au Japon, De la Grèce à la Chine, Bilan de l'histoire et L'épopée des croisades également, pour laquelle il est connu.
Absolument, je crois l'avoir lu, en effet. Lui succède Pierre Gaxotte, élu à l'Académie en 1953 et qui y reste jusqu'en 1982. Il a été très longtemps académicien, Pierre Gaxotte.
Tout à fait. Donc voilà le Lorrain dont nous parlions tout à l'heure, très attaché à sa région de Lorraine. Il a, dans son œuvre, il y a une part de souvenirs, notamment Mon village et moi, où il raconte ses origines dans les Vosges. Et c'était un historien au départ. Il avait fait des études classiques, l'école normale supérieure en 1917 et ensuite l'agrégation d'histoire en 1920, à laquelle il avait été reçu premier, tout en obtenant parallèlement une licence de sciences. Et après avoir entamé une carrière de professeur d'histoire en lycée, il s'était lié d'amitié avec Artem Fayard, qu'il avait présenté à Charles Maurras, dont il était devenu un temps le secrétaire. Et cet éditeur Fayard lui confia ensuite la direction d'une collection « Grandes études historiques », ainsi que la responsabilité de l'hebdomadaire « Candide ». Et donc, Gaxotte fut l'auteur de nombreuses études historiques qui sont encore traduites à l'étranger, qui sont très lues, qui portent sur la période moderne, le siècle de Louis XIV, la France de Louis XIV, le siècle de Louis XV, la Révolution française, l'histoire des Français. Et c'était aussi un grand spécialiste de l'histoire de l'Allemagne. C'est pas toujours en France, et c'était un excellent connaisseur de l'histoire de l'Allemagne.
Sans doute certains de nos auditeurs se souviennent d'avoir lu ces chroniques qui paraissaient régulièrement dans le Figaro, puisque c'était l'une des grandes signatures du Figaro, déjà après-guerre, mais jusque dans les années 80, en effet.
Oui, il a écrit plus de 1000 chroniques dans le Figaro. Et il a aussi écrit une histoire de l'Académie française. Et nous présentons dans l'exposition le manuscrit autographe de cet ouvrage sur l'Académie française qui a été donné récemment à la bibliothèque par M. Philippe Gaxotte, qui est le descendant et héritier de Pierre Gaxotte. Que nous remercions.
Et voilà, à Pierre Gaxotte succède alors un homme politique et aussi un ethnologue vraiment très célèbre, Jacques Soustel, élu à l'Académie en 1983. Alors là, il a mené de front une carrière d'archéologue, de chercheur et en même temps d'homme politique.
Exactement, il y a eu plusieurs vies dans la vie de Jacques Soustel, comme dans celle de Jean-François Degnaud ensuite, du reste. Un très brillant élève, étudiant, reçu premier au concours de l'école normale supérieure à l'âge de 17 ans, reçu premier à l'agrégation de philosophie à l'âge de 20 ans, et ensuite passionné par le Mexique, les civilisations de l'Amérique ancienne. Il a été l'un des fondateurs du Musée de l'Homme, dont il devint le sous-directeur. Chargé de cours au Collège de France, à l'École nationale de la France d'Outre-mer, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Et alors ensuite, première rupture, après l'armistice de 1940, il rejoint les forces françaises libres à Londres Et ensuite, il est chargé de mission par le général de Gaulle, mission diplomatique, mission au commissariat national à l'information dont il est chargé, directeur général des services d'action en France, à Alger, commissaire de la République à Bordeaux, député à la première assemblée constituante, puis en 1947, secrétaire général du RPF. Il avait été ministre de l'information et ministre des colonies entre-temps, député du Rhône pendant une très longue durée, de 1951 jusqu'à 1973, gouverneur général de l'Algérie en 55-56, à nouveau ministre de l'information, etc.
Mais c'est justement l'Algérie qui va poser un différend entre lui et le général de Gaulle et qui va changer un peu sa vie, justement.
Exactement. Il était partisan de la présence française en Algérie et il démissionna du gouvernement en 1961, à la suite de quoi il fut poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État et passa 8 années en exil à l'étranger. Et il fut amnistié en 1968. Et il est donc rentré en France à cette époque, après avoir écrit plusieurs ouvrages scientifiques et politiques. Et il a été réélu député, il a siégé à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et il a également accompli des missions économiques et culturelles au Mexique et en Amérique du Sud.
Jacques Soustelle est mort en 1990, ça n'est pas si vieux. Et lui succède Jean-François Deniau, donc qui est élu à l'Académie en 92 sur ce 36e fauteuil.
Exactement, avec une vie également très riche, une vie d'homme d'action, mais aussi de romancier et d'essayiste.
Voilà, il a écrit un livre avec ses 7 vies, je crois. Donc voilà, on peut considérer qu'il en a 7. Voilà. Mémoire de 7 vies.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a écrit de nombreux ouvrages. Un des derniers est le dictionnaire amoureux de la mer et de l'aventure, puisque c'était un grand marin. Il a écrit également des contes, comme Le secret du roi des serpents, qui a été publié avec une édition illustrée, mais aussi des ouvrages très sérieux, Le marché commun en 1958, et puis des romans qui ont eu un grand succès auprès du public, L'Empire nocturne, L'Atlantique et mon désert, ça c'est plutôt biographique, Un héros très discret, Le bureau des secrets perdus, Tadjoura, Le cercle des 12 mois, La bande à Suzanne, Le bord des larmes, L'île Madame, un roman, mais 2001.
Et Jean-François Deniau a aussi fondé le groupe des écrivains de marine, sur lequel Canal Académie propose aussi une émission, puisque nous avons rendu hommage à Jean-François Deniau de cette façon. Alors succède et a succédé récemment donc à Jean-François Deniau, le 23 octobre 2008, Philippe Bossan. Alors avec lui entre la grande culture de l'époque baroque.
Exactement, la musique également, la musique baroque, le spectacle et voilà.
La danse, le théâtre, oui. Est donc un auteur aussi, peut-être qui mérite vraiment d'être découvert. Enfin, en tout cas, son dernier ouvrage, Passage de la Renaissance au Baroque, qui avait reçu le prix Montaigne en 2008, sur lequel aussi Canal Académie a fait une émission, mérite vraiment d'être lu car il nous introduit dans l'univers de Philippe Bossan et c'est un très grand plaisir. Mireille Pastoureau, merci de nous avoir raconté l'histoire de ce 36e fauteuil de l'Académie française. Et nous en avons encore 36 à faire. Donc,
avec plaisir.
Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.